Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, alors nous pouvons donc reprendre, et avec une question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que Théobalde possédait l'une ou l'autre des éditions que je viens d'énumérer ? Et vous souvenez qu'on a la chance, qui n'est pas quand même si rare, d'avoir le catalogue de sa bibliothèque, puisqu'une des pratiques des XVIIe et XVIIIe siècles était très souvent, pour des collections d'une certaine importance ou des ouvrages d'une certaine rareté, au moment du décès, de les mettre en vente, et en particulier de la mise en vente aux enchères, à la fois en Provinces-Unies, Angleterre, France, et donc un catalogue établi par un libraire qui donnait un minimum de description bibliographique des ouvrages qui étaient mis en vente. Et dans le cas de Théobalde, sa collection est vendue en 1744, et on rencontre, je l'avais déjà signalé, deux Don Quichotte. Un premier qui est le Don Quichotte publié à Bruxelles en 1611, c'est la deuxième édition de Bruxelles, la première étant de 1607, mais là encore, évidemment, aucune image. En revanche, il possédait une édition qui n'a pas été datée par, ou dont la date n'a pas été donnée par le libraire, mais qui est ainsi décrite, Don Quichotte in Spanish with cuts, two volumes, a neat letter. Donc, Don Quichotte en espagnol avec des gravures, deux volumes et une belle typographie. A neat letter. 1744. On ne peut donc pas immédiatement identifier quelle est l'édition dont il est question ici, mais on peut au moins avoir l'hypothèse qu'il s'agit soit, et c'est le plus vraisemblable, de l'édition de Bruxelles de 1662. C'est-à-dire l'édition en espagnol reprenant la série iconographique de l'édition néerlandaise de 1657, soit, mais l'hypothèse est moins probable, il s'agit de l'édition madrilène de 1674 ou l'une de ses rééditions. Dans l'une ou l'autre hypothèse, puisque Don Quichotte n'apparaît pas dans Double Falsehood, une seule gravure pouvait nourrir l'imagination dramatique de Théobalde, c'est-à-dire la gravure de la rencontre, des retrouvailles, des réconciliations, des repentirs et des pardons entre les quatre jeunes gens. Et effectivement, un jeu d'écho peut être opéré entre cette image qui, en 1662, dans l'édition de Bruxelles, est semblable à ce qu'elle est en 1657, c'est-à-dire Dorothea agenouillée, Fernando et Lucinda, et d'un autre côté de l'image, Cardenio. Si Théobalde possédait l'édition de Madrid de 1674, son imagination pouvait être plus fortement mobilisée par le choix fait par Diego de Obregón, c'est-à-dire de situer Lucinda entre les deux jeunes hommes qui l'avaient pour l'un enlevé et pour l'autre lui avait promis le mariage. Mais c'est cette seule image qui pouvait être présente dans son imagination lorsqu'il écrit pour la dernière scène de la pièce ce moment où effectivement Violante Dorothea supplie Enriquez Fernando de revenir à elle pour les raisons qui sont celles de la Dorothea de Cervantes, sauf évidemment l'idée qu'ils sont déjà mariés, puisque comme on l'a vu dans la pièce de Théobalde, est affaiblie la valeur sacramentelle des promesses de présent. Et devant la jeune fille qui le supplie, Enriquez Fernando se rend et revient à la femme qu'il a séduite ou forcée, et du coup, comme dans le Quichotte, libère Leonora Lucinda. Il y a donc une scène dramatique sur le théâtre qui est évidemment à la fois très proche de la description de Cervantes et très proche de l'image des éditions soit hollandaises et bruxelloises, soit espagnol. L'édition de la pièce de Théobald n'indique aucun jeu de scène pour ce moment, mais on peut penser qu'il a pu être représenté en suivant les mouvements indiqués par Cervantes et montré de manière différente par le graveur, puisqu'en 1657, Cardenio ne s'est pas encore approché de Lucinda, alors qu'en 1657-1662, puisque l'édition de Théobald était en espagnol, il ne s'agit donc pas de l'édition en néerlandais, mais de la reprise en 62 du programme iconographique de 57, ou bien il s'est déjà rapproché de Lucinda, est à son côté dans les gravures, dans la gravure de l'édition espagnole de 1674. Il y a cependant une différence qui était liée au choix fait pour le dénouement par Théobald, puisque, comme je viens de le dire, sur les gravures, il pouvait voir ces deux présences possibles de Cardenio, mais elles ne lui servaient pas, puisque ce qui est dans le dénouement de la pièce de 1728, c'est qu'à ce moment-là, Cardenio n'est pas encore réapparu comme tel, il s'appelle Giulio, vous vous en souvenez, puisque lui aussi déguisé ne révélera son identité que plus tard. Donc de l'image ou de la description, ce que Théobald pouvait reprendre, c'est évidemment le motif des trois personnages, Dorothea, Fernando, Lucinda, sans Cardenio aux côtés de Lucinda et sans même Cardenio dans la scène, puisque Giulio n'est pas encore présent à ce moment-là. Il pouvait donc focaliser l'attention sur ce groupe de trois personnages qui, d'ailleurs, et c'est un argument supplémentaire pour mettre la scène en rapport avec l'image de 1657-62 plus qu'avec celle des éditions espagnoles, ce qui, d'ailleurs, avait été le traitement iconographique de la scène puisque Cardenio est dans une position très marginale dans cette première image. Mais on peut dire aussi que Théobald pouvait avoir une connaissance encore plus directe des gravures présentes dans les éditions anglaises de Don Quichotte. Jusqu'à maintenant, j'ai évoqué des éditions soit en néerlandais, 1657, soit en espagnol, qu'elles soient de Bruxelles, d'Anvers ou de Madrid. Mais évidemment, en 1728, existait déjà des éditions en traduction anglaise qui étaient illustrées par des séries d'images. La première édition du texte en anglais à être illustrée, et non pas les éditions qui ont suivi la première traduction de Shelton en 1612, mais on trouve les illustrations dans la seconde traduction à l'anglais en anglais de Don Quichotte, c'est la traduction de John Phillips, qui était un neveu de Milton, qui est le second traducteur après Thomas Shelton. Et son édition est publiée en 1687. Le titre choisi par John Phillips est « The History of the Most Renowned Don Quixote of Mancha » and his trusty squire, Sancho Panza, now made English according to the humor of our modern language. On voit donc qu'il y a dans ce titre la volonté de rappeler l'histoire du très fameux Don Quichotte de la Manche et de son fidèle, trusty écuyer Sancho Panza, avec une H. Mais au-delà donc de cette référence à « the history », c'est-à-dire de rester fidèle à la catégorie de genre voulue par Cervantes. Don Quichotte est une « historia », ce n'est pas une « novella ». Les « novellas » sont les récits brefs introduits à l'intérieur du Quichotte, comme par exemple la « novella del curioso impertinente ». D'autre part, c'est de jouer sur la renommée de Don Quichotte et la fidélité de Sancho. Et, détail intéressant, maintenant rendu en anglais, selon l'humeur de notre langue moderne, c'est-à-dire la conscience qui existe dès la fin du XVIIe siècle, que l'on a rencontrée dans les réflexions sur les éditions de Shakespeare, de l'écart qui s'est établi entre la syntaxe, la grammaire, les formes de l'anglais de la fin du XVIe et du début du XVIIe et cette langue qui est celle maintenant de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, ce qui, évidemment, va être la trame de fond des éditions de Shakespeare au XVIIIe siècle, commençant avec l'édition de Nicholas Rowe de 1709, pour aller jusqu'à, pour ce qui nous concerne, l'édition de Lewis Theobald dans les années 1730. Donc il y a là cette conscience que les textes anciens, aussi bien ceux de Shakespeare que ceux de la traduction de Don Quichotte, doivent être modernisés pour être en accord avec les nouvelles pratiques. Et vous souvenez, c'est un des éléments qui peut être utilisé parfois pour essayer de montrer la présence d'un premier texte du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, à l'intérieur d'une réécriture du XVIIIe siècle. J'avais montré avec l'emploi de la régularisation de l'auxiliaire « do », présent ou absent dans les affirmatives et absent ou présent dans les interrogatives ou les exclamatives, ou les négatives, que c'était un des traits qu'une forme de sociolinguistique ou de linguistique historique peut utiliser aujourd'hui. Dans les illustrations de la traduction de John Phillips en 1687, aucun épisode de la nouvelle de Cardenio n'est représenté. L'attention est entièrement focalisée sur des scènes où Don Quichotte est présent. Et cette absence de la nouvelle dans les séries d'images est aussi un trait qui caractérise la traduction publiée en 1700 par Pierre Motteux, qui se donne sur la page de titre comme « Adorned with a sculpture », illustre, orné avec des gravures, ou sa révision en 1719 par Ozell, annoncée sur la page de titre comme « Carefully revised and compared with the best editions of the original printed in Madrid », soigneusement révisée et comparée avec les meilleures éditions de l'original imprimées à Madrid. Puisque ces deux éditions, celle de Motteux en 1700 et celle de Ozell qui révise Motteux en 1709, reproduisent les gravures de l'édition de John Phillips, de l'édition de la traduction de John Phillips de 1687. Il y a donc là une absence de la nouvelle de Cardenio dans toute une série d'éditions anglaises dans les éditions de 1687, 1700 ou 1719. Au passage, on voit combien le Quichotte est omniprésent dans l'horizon esthétique et intellectuel du début du XVIIIe siècle en Angleterre, puisqu'on va avoir, alors que durablement, entre 1612 et 1687, une seule traduction rééditée était disponible, celle de Shelton, à partir de 1687 et plus encore de 1700, on a un rythme rapide de traduction qui, selon la pratique que j'avais mentionnée, pour les éditions de textes, quelles qu'ils soient, toujours prennent comme texte de base la traduction précédente et la transforme et la modernise. C'est le cas de ce que fait Motteux en 1700 à partir de la traduction de 1687 de Phillips, et c'est ce que fait Ozell en relation avec la traduction de Motteux en 1719. Et dans ce flux de traduction qui montre la fascination, l'importance du Don Quichotte en Angleterre, cette même année 1700 est publiée non seulement la traduction de Motteux, mais aussi la traduction de John Stevens, qui s'annonce sur la page de titre comme « The History of the Most Ingenious Knight Don Quixote de la Mancha », l'histoire du très ingénieux chevalier Don Quixote de la Mancha, « Formerly made English by Thomas Shelton, now revised, corrected, and partly new translated from the original ». C'est-à-dire que dans le cas de Stevens, il passe par-dessus la traduction de John Phillips, revient comme texte de base à la traduction de Shelton, mais le corrigeant, le révisant et parfois traduisant de façon nouvelle le texte de Cervantes en s'appuyant sur les originaux. Donc en 1700, on a deux traductions concurrentes. Et dans cette seconde, il y a 33 gravures sur cuivre, curiously engraved from the Brussels edition. Donc 33 gravures sur cuivre qui se réfèrent, en ajoutant un certain nombre de gravures, au corpus des gravures qui étaient apparues dans l'édition de 1662 de Bruxelles et sans doute dans ses rééditions. Et on retrouve là les images classiques du modèle hollandais, c'est-à-dire la fureur de Cardenio contre Don Quichotte ou bien encore la supplique de Dorothea agenouillée aux pieds de Fernando. On a donc d'édition en édition, de langue en langue, néerlandais, espagnol, anglais, la perpétuation d'un choix iconographique très stable, très figé, au moins dans ses élections, les trois scènes que l'on retrouve toujours plus, et qui peuvent donner lieu à de légères variations dans leur traitement, dans leur rapport au texte ou dans leur modalité de représentation, mais qui s'inscrivent dans cette durée d'une stabilité du programme iconographique, puisque l'on a vu que la seule innovation introduite dans ce programme, c'est-à-dire la scène de Dorothea se lavant au bord du ruisseau et vue, découverte comme jeune femme, par sa chevelure, par le barbier, le curé et Cardenio, s'est introduite dans un programme iconographique qui est certes fidèle aux autres choix du programme hollandais, mais qui est original puisqu'il s'agit de la série d'illustrations espagnoles pour des éditions en Espagne qui commence en 1674. Alors, comment s'introduisent des nouveautés dans cette fixité ou cette perpétuation ? Elles s'introduisent, et elles étaient donc du coup disponibles pour l'imagination de Théobald, ou plus encore de ses lecteurs, de ses spectateurs, en 1725, non pas dans une nouvelle traduction, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de lien immédiat entre le fait que des images nouvelles se liraient à une traduction nouvelle, puisque dans ce cas-là, en 1725, il s'agit de la réédition de la traduction de Shelton, mais qui est présentée en 1725 « with a curious set of cuts from the French of Coypel », avec un curieux ensemble de gravures venues de France et de Coypel. Alors Coypel, c'est Coypel, est un peintre qui appartient à au début du XVIIIe siècle et qui, dans ce cas-là, avait produit non pas des gravures pour une édition, mais 24 cartons pour des tapisseries qui devaient mettre en image Don Quichotte et qui auraient été produites par la Manufacture royale de tapisseries des Gobelins. Il ne s'agit donc pas d'illustrations dans un livre, il ne s'agit pas non plus de gravures, au moins pour commencer, données sous forme d'estampes séparées. Il s'agit d'un programme demandé à un peintre qui est encore très, très jeune à ce moment-là, Coypel, de donner une série de cartons, comme Goya le fera pour la tapisserie royale de Madrid à la fin du siècle, pour une série de tapisseries. Et il commande, les premiers cartons sont datables de 1715. Et c'est simplement postérieurement au carton que à partir de 1723-24, les cartons dessinés et peints par Coypel pourront devenir des estampes imprimées par l'atelier de Louis de Surugue et qui deviendront en quelque sorte un matériel plus largement diffusé que les cartons des tapisseries. Et c'est cette série, sans doute à travers la médiation des gravures, des estampes imprimées, hors toute édition du Quichotte, que va donner inspiration au graveur Gérard van der Googt pour les estampes 15 qui entrent dans l'édition de 1725 anglaise de la traduction de Shelton. Et ce modèle-là est opposé au modèle iconographique hollandais par Mérias dans la mesure où il s'agit d'un modèle construit, peint, dessiné par Coypel à l'intérieur d'une esthétique toute différente, une esthétique aristocratique, une esthétique galante et rococo et une esthétique très fortement théâtralisée. Une seule gravure concerne dans cette série de 15 de l'édition anglaise de 1725 la nouvelle de Cardenio. Elle est d'ailleurs avec une légende, « The pretended princess of Micomicon petitions Don Quixote to restore her to her kingdom. » La prétendue princesse du Micomicon supplie Don Quichotte de la restaurer dans son royaume. Alors la scène ici n'est plus la scène du chapitre 30, lorsque Dorothea Micomicona était témoin et essayait de limiter la violence de Don Quichotte à l'égard de Sancho, mais elle est une scène du chapitre antérieur, du chapitre 29, et non plus du chapitre 30, qui est la première rencontre entre Dorothea Micomicona et Don Quichotte. Comme je l'ai dit, Dorothea jouant ce rôle d'une princesse éplorée et dépossédée de son royaume. Et la scène est ainsi décrite dans le Quichotte. Donc, ils se sont mis en route, le curé, le barbier, Cardenio et Dorothea. Ils pouvaient avoir parcouru trois quarts de lieue lorsqu'ils découvrirent Don Quichotte au milieu d'un amoncellement de rochers avec ses habits, mais sans ses armes. Et dès que Dorothea l'eut aperçu et que Sancho lui eut appris que c'était bien lui, parce qu'ils ont aussi rencontré Sancho sur le chemin avant d'arriver à Don Quichotte, elle donna de la cravache à son palefroy, suivi du barbier barbu. Et à peine furent-ils auprès de lui que l'écuyer sauta de sa mule et alla prendre Dorothea dans ses bras. Celle-ci, mettant fort gaillardement pied à terre, alla s'agenouiller devant Don Quichotte. Et celui-ci eut beau s'efforcer de la relever, elle, sans y consentir, s'adressa à lui en ces termes. « Je ne me relèverai pas d'ici, vaillant et courageux chevalier, que je n'ai obtenu de votre bonté et de votre courtoisie une grâce, laquelle tournera à l'honneur et à la gloire de votre personne, ainsi qu'au profit de la damoiselle la plus désespérée et la plus outragée qui ait jamais vu le soleil. Et si la force de vos bras vigoureux est digne de la voix de votre immortelle renommée, vous avez le devoir de venir en aide à l'infortuné qui, attiré par votre grand renom, est venu à votre recherche depuis des contrées aussi lointaines pour que vous remédiez à ses malheurs. » C'est donc cette scène-là qui est représentée en 1725 à partir d'un des cartons et d'une estampe de Coypel. Et l'image suit de très près le texte de Cervantes où l'on voit la princesse Micomicona au genou de l'Hidalgo, du chevalier Guéran, commençant son discours de supplication où elle va expliquer comment un terrible géant l'a dépossédée de son royaume et dont elle demande donc le bras, l'aide de Don Quichotte, et comme je le disais, lui promettant à la fois son royaume et sa personne, sa main, le mariage. Et on voit au premier plan de l'image de Coypel et de l'édition anglaise de 1725, le barbier barbu, puisque il a choisi de jouer le rôle de l'écuyer de la princesse Micomicona qui rit dans sa barbe. C'est-à-dire ici une référence à cette tour qu'ils ont inventée, lui et le curé, pour ramener Don Quichotte en situant heureusement El lugar de la Mancha, où vit Don Quichotte, sur le chemin du royaume de Micomicona. Et cette estampe, cette image, comme les cartons de Coypel, va circuler également sous forme d'estampes séparées du texte. À partir du début du XVIIIe siècle, on voit, en retour à ce qu'avait pu être une première série d'images séparées du texte, commenté l'année dernière ici par notre collègue argentin José Emilio Burucua, c'est-à-dire la série d'estampes du milieu du XVIIe siècle, gravées par Lagnier dans un atelier pas très loin d'ici, dans la rue Saint-Jacques, et qui avait pour la première fois présenté une série d'images de Don Quichotte sans qu'elles soient des illustrations d'une édition, et avec toute une série de modalités du rapport entre texte et image très subtiles, puisque dans certaines d'entre elles, la référence était faite à une citation de la traduction française par Oudot du Quichotte, et dans d'autres images, le texte, sous forme de proverbes, de sentences, de lieux communs, s'inscrivait dans l'image elle-même, jusqu'à des images dans lesquelles un commentaire du graveur venait s'ajouter, se substituer au texte de Cervantes. Mais à part cette série de Lagnier des années 1650, évidemment, les séries d'estampes séparées du texte se développent surtout à partir du début du XVIIIe siècle, et surtout en rapport avec ce modèle français de l'iconographie inventé par Coypel pour les Gobelins et qui est repris en charge ici dans la traduction anglaise, dans son édition de 1725, de Shelton. Et une autre image qui pouvait avoir été présente dans l'horizon d'imagination des spectateurs ou des lecteurs de The Double Falsehood, et pas seulement cette estampe dedans ou dehors de l'édition 1725, mais aussi une estampe de William Hogarth, qui est la toute première, à montrer, non pas Cardenio furieux renversant Don Quichotte, mais la première rencontre entre Cardenio et Don Quichotte. Et c'est une estampe séparée de toute édition des mêmes années, des années 1720, les dates, et on verra cela plus précisément la semaine prochaine, donnée pour cette estampe est à partir de 1726, entre 1726 et 1738, parce qu'il est possible que cette estampe était aussi pensée en rapport avec l'illustration d'une édition du Quichotte en 1738. Mais elle donne à voir, en tous les cas, et elle a circulé de façon séparée, la première rencontre qui est fondamentale dans la Sierra Morena entre Don Quichotte et Cardenio. De Cardenio, Don Quichotte a appris les extravagances par les gardiens des troupeaux de chèvres, et en particulier lorsque, pris de folie, Cardenio se jette sur l'un d'eux en croyant tenir entre ses mains le traître l'elfementilo Fernando, le traître Fernando. D'autre part, il a connu ce qui avait été une série de déductions par rapport à la valise ou à la mallette laissée, abandonnée par Cardenio dans la Sierra Morena. Mais là, la rencontre s'opère. À peine arrivé, le jeune homme les salua, Don Quichotte et Sancho, d'une voix discordante et rauque, mais fort poliment. Don Quichotte lui rendit son salut avec autant de civilité Et descendant de Rocinante, il alla d'un air avenant et de bonne grâce lui donner l'accolade et le tint longtemps serré dans ses bras comme s'il l'avait connu de longue date. L'autre, que nous pouvons appeler le déguenillé à la priêtre figure, tout comme nous avons baptisé Don Quichotte le chevalier de la triste figure, après s'être laissé donner l'embrassade, écarta Don Quichotte un peu de lui et lui posant les mains sur les épaules, se mit à le regarder comme pour voir s'il le reconnaissait. Et, sans doute, n'était-il pas moins étonné de contempler l'aspect, l'allure et les armes de Don Quichotte que Don Quichotte ne l'était de le voir. En fin de compte, le premier à parler après cette accolade fut le déguenillé, Cardenio, et il déclara ce qui va être dit maintenant. Il y a donc là la première rencontre, et l'image d'Hogarth s'écarte légèrement de la description, en particulier dans le portrait de Cardenio, qui est décrit par Cervantes un peu plus long, auparavant, doté d'une barbe noire et épaisse, des cheveux touffus et ramassés en tas, mais en respectant les indications quant aux pieds nus du jeune homme, quant à ses chausses déchirées, puisque Cardenio, dans cette folie désespérée d'amour, incarne en quelque sorte l'homme, un homme sauvage qui a abandonné tout bien sur le chemin de la Sierra Morena et qui vit totalement retiré dans cette solitude. Donc un rapport de l'iconographie de fidélité et d'écart par rapport à la description. Mais surtout, ce qui est le plus important, à mon sens, c'est le fait que la gravure d'Hogarth rend visible ce qui lie profondément les deux habitants de la Sierra Morena et qui, dans le texte de Cervantes, fait que Cardenio est embrassé par Don Quichotte comme si ce dernier l'avait connu de longue date, como si de luengos tiempos le hubiera conocido. Et s'ouvre là, dans la gravure d'Hogarth et dans la lecture, l'interprétation du Quichotte, et malheureusement impossible ou amputée par les adaptations théâtrales qui ont écarté Don Quichotte de l'histoire de Cardenio, s'ouvre cette idée de la du parallèle entre les deux personnages. Il est très fort parce que, d'une part, tous les deux alternent, oscillent, vacillent entre l'entendement et la déraison, entre l'urbanité et la violence. Ils ont donc une structure de la personnalité, pour parler comme Elias, qui est très identique. Tous deux projettent sur le monde tel qu'il est leur rêve ou leur cauchemar, Don Quichotte, on le sait, projetant les souvenirs de ses lectures sur la réalité pour la modifier, et Cardenio, projetant sur le monde où il s'est retiré sa propre histoire, et en particulier prenant tel ou tel des chevriers pour Fernando. Tous deux aussi ne sont pas ou ne sont plus ce qu'ils devraient être. Et Don Quichotte l'indique de manière très aiguë lorsqu'il désigne, il parle à Cardenio en lui disant qu'il est aussi étranger à vous-même que le montre votre habit et votre personne. Par cette retraite d'homme sauvage dans la Sierra Morena, Cardenio est devenu étranger à ce qu'il est, c'est-à-dire un jeune noble andalou. Et on peut dire qu'en se baptisant Don Quixote à Mancha, dont Alonso Quijano est devenu étranger à lui-même. Et tous deux ont nourri leur déraison des mêmes références littéraires, des mêmes lectures, en particulier celle de la Madis, ce qui explique l'épisode qui va donner lieu à l'autre image, celle qui se rencontre dès 1657, à propos de la querelle sur la fidélité ou que la vertu de la reine Madassima. On a donc un motif très puissant dans le Quichotte, qui d'ailleurs est renforcé par le parallèle des deux surnoms, le chevalier à la triste figure, et comme l'avait traduit Shelton pour Cardenio, the Knight of the Rock, le chevalier des rochers, le chevalier de la montagne. Il y a donc un parallèle extrêmement fort qui fait que finalement, Don Quichotte reconnaît Cardenio qu'il n'a jamais vu, peut-être d'une certaine manière parce qu'il reconnaît dans Cardenio comme un double de lui-même. Et on voit que Cardenio essaye d'imaginer s'il a déjà rencontré Cervantes. Et dans la représentation iconographique de Hogarth, la différence est maintenue entre les deux personnages, mais vous le verrez, que le traitement iconographique supporte cette idée que l'un peut être le double de l'autre. Et certains des dramaturges ont exploité cette possibilité, d'une certaine manière, Guillén de Castro dans la Comédia, Don Quijote à Ancha, d'une certaine manière, que Pichou dans la pièce française, les folies de Cardenio, en écho aux folies, ou plutôt les folies de Don Quichotte étant en écho à celles de Cardenio. On a donc là un traitement iconographique qui fait surgir du texte de Cervantes traduit par Shelton un parallèle dont s'est privé Théobald, ou dont s'était déjà privé Fletcher et Shakespeare en 1613, sauf à penser, comme le suggère la réécriture de leur pièce en filigrane dans Double Falsehood par Gary Taylor, qu'ils avaient maintenu la présence de Don Quichotte dans leur propre pièce. Ce qui d'ailleurs, et je vais terminer là pour laisser une dernière série d'images à la possibilité de la voir la semaine prochaine, c'est-à-dire l'édition un peu postérieure à Don Quichotte, à Double Falsehood, mais qui va très profondément marquer l'histoire des éditions et du Quichotte et l'histoire des illustrations des éditions du Don Quichotte, c'est-à-dire l'édition de 1738, qui est l'édition en Angleterre, mais en espagnol, qui dans un certain sens serait comme l'équivalent du folio de 1623 pour Shakespeare, l'édition qui canonise à la fois le texte et l'auteur. Donc, laissant cela comme conclusion à ce développement pour la semaine prochaine, une ultime réflexion sur donc cette question obsédante, finalement. Est-ce que c'est dès 1613 que Don Quichotte avait été absent de The History of Cardenio, ou est-ce plus tardivement, 1660, 1727, un argument qui pourrait soutenir l'inspiration d'écriture de Gary Taylor serait évidemment que ce choix de contrepoint permanent entre un monde aristocratique ou nobiliaire ou princier et, d'un autre côté, un monde populaire, un monde d'inversion carnavalesque, un monde d'une culture folklorique, est une thématique obsédante dans le théâtre shakespearien, aussi bien que dans les pièces historiques, de penser à Richard II, que dans les pièces qui sont des comédies ou des tragiques comédies, en particulier dans The Two Noble Kinsmen, les deux nobles cousins, écrites en même temps que le Cardenio perdu, qu'il y a ce contraste, comme j'avais essayé de le montrer dans les séminaires consacrés à cette pièce, c'est-à-dire d'un côté des un rapport entre le monde du prince, de la cour, des grands, et puis, dans ce cas-là, le monde des artisans paysans ou des paysans artisans d'Athènes. Alors, évidemment, le parallèle Cardenio que Don Quichotte ne repose pas sur le même principe, puisque tous les deux appartiennent à des degrés différents à la noblesse, le jeune noble andalou Cardenio versus le pauvre Hidalgo de la Mancha Don Quichotte. Mais néanmoins, la le parallèle possible entre leurs deux déraisons situées dans le même horizon de lecture, mais dans des histoires personnelles qui étaient en écart du point de vue social, la noblesse dépossédée de la petite noblesse dépossédée de toutes ses fonctions politiques, judiciaires ou militaires, qui incarne le personnage de Don Quichotte, et en même temps son rêve d'une restauration de certaines de ses fonctions rendues possibles, comme l'avait montré dans un livre magnifique Pedro Cátedra et dans des conférences faites ici, par les réformes de Philippe II, d'un côté, et de l'autre côté, cette intrigue à laquelle participe Cardenio et qui est une intrigue qui, elle, est située dans le monde de la cour, le monde du duc, du fils Fernando du duc et de la noblesse andalouse, pouvait donner matière à des scènes où les parallèles, les inversions, les réciprocités auraient été fondamentales. C'est donc une tentation que l'on peut partager avec Gary Taylor, celle qui consiste à suggérer, à imaginer, ou peut-être même à désirer, que dans la pièce de 1613, History of Cardenio, cette pièce-là pouvait avoir été aussi The History of Don Quixote. Donc, nous en restons là et je vous promets des images pour la fois prochaine. Mais, comme je le disais, c'était un exercice aujourd'hui qui ressemblait à ce qui était classique au XVIIe siècle, c'est-à-dire d'essayer de faire voir des images en utilisant seulement des mots.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.